Bonsoir ou bonjour, chers auditeurs, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
Dobry vecher.
Là, voilà, vous savez ce qui va se passer. D'ailleurs, je l'ai annoncé la semaine dernière, je reçois un tigre, Vladimir Fedorovski, que vous venez d'entendre. J'étais en train de dire que si je vous souhaitais une bonne soirée, c'est que quelquefois, je l'oublie. Et nous sommes rediffusés le jeudi à 23h et en direct ce mercredi, comme tous les mercredis, à 16h. J'ai un autre tigre ou une tigresse dans ce studio. Ça va être difficile, cette émission, outre Vladimir Fedorovski. Anne Brassier, qui viendra tout à l'heure nous parler de différents scandales. Je voudrais savoir où on en est. Je crois que c'est très avancé, hélas, de cette substitution aux...
Des vitraux.
Vitraux de Viollet-le-Duc, de... d'une œuvre dont il apparaît qu'elle a des intentions sataniques.
Mais maçonnique en tout cas.
Non, je crois que c'est pire. Oui. Je voudrais qu'on y revienne là-dessus. Oui. Qu'on revienne là-dessus, pardon, pour parler français. Mais je voudrais aussi que, Anne, vous nous parliez encore d'un autre scandale que vous m'avez signalé au téléphone, raison pour laquelle je vous ai demandé de venir aujourd'hui. Mais je vous en prie, comme vous vous connaissez tous les deux fort bien, chère Anne, participer à la conversation avec Vladimir. Je m'empresse de dire tout de suite, parce que je crains de pas le faire à la fin de l'émission, nous sommes toujours un peu pressés, que cette émission, la dernière que je fais tout au moins avant plusieurs mois, car je pars dans une heure ou deux pour une expédition de plusieurs mois, ce qui fait que ce sont des membres de l'équipe du Nouveau Conservateur qui vont se relayer à ces émissions, qui s'appellent d'ailleurs les répliques du Nouveau Conservateur. Vous savez que cette revue est devenue mensuelle, le dernier numéro a été consacré au défi de l'intelligence artificielle et de l'économie numérique. C'est pas tout à fait la même chose. Nous avons appelé ça « Les carottes sont-elles cuites ?». C'était le numéro d'avril. J'espère qu'ils sont arrivés dans toutes les boîtes aux lettres. Je dis ça parce qu'il n'est pas arrivé dans la mienne, je l'ai. Mais j'espère que l'acheminement n'est pas trop long. On a pourtant bouclé il y a plus de 15 jours et nous avons bouclé par précaution plus tôt, c'est-à-dire hier, le numéro du mois de mai qui sera consacré à la société organique. Vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire la société qui n'est pas fondée sur le contrat, mais sur un ordre naturel des fonctions et des... ce que Maurras appelle... Enfin, je préfère ne pas engager la conversation trop avant, sur le sujet. Il y a un ordre naturel des choses, et puis il y a la société du contrat née au 18e qui l'a bousculé, et nous voulons réillustrer l'ordre naturel, ce que nous appelons la société organique. Le numéro est sous presse depuis hier, donc j'espère que vous l'aurez. Pour les abonnés du moins, j'espère que nombreux sont les abonnés du Nouveau Conservateur. Pour cela, il suffit de regarder le site et vous verrez aisément comment vous abonner. Il va arriver, au moins pour les abonnés, à la mi-mai. Alors, la semaine prochaine, c'est un des piliers du Nouveau Conservateur, l'un des membres fondateurs, Gilles Brochard, qui sera à ce micro. Dans 15 jours, ce sera Valentin Gore, un autre pilier du Nouveau Conservateur, que vous connaissez l'un et l'autre. Gilles Brochard est au matinal très souvent. Valentin participe le jeudi souvent à la tranche dévolue à Valeurs Actuelles. Les choses sont bien faites. Il y aura aussi, bien entendu, notre directeur de la rédaction, Guillaume de Thieulois, celui qui a voulu et grâce à qui nous sommes devenus mensuels et qui fera plusieurs émissions. Je crois que nous pouvons aussi nous reposer sur un autre pilier ancien qui est Pierre Lours, grand ami d'Anne Brassier.
Et que puis, l'on salue, il nous écoute.
Il nous écoute depuis son Aurillac profond, pas si profond que ça, c'est auteur de, non oui. Pas d'Aurillac, mais de la... Allons, je ne connais que Aurillac, je ne sais pas pourquoi, c'est mon voisin. Le département, voyons, allons, ne me laissez pas patauger comme ça.
Je n'y suis pas allé.
Oh, mais c'était incroyable.
Je ne connais pas du tout ce coin.
Le Cantal.
Cantal, bravo.
Bon, c'est mon voisin, pourtant, voisin de mon propre département, la Corrèze. Bref, je pense que Pierre Lours, pour l'instant, est en villégiature, mais nous rejoindra et animera quelques émissions. De toute façon, il y a toute une équipe du Nouveau Conservateur qui peut et qui doit, d'ailleurs, au même titre que moi-même, qui vais m'évanouir dans la nature pour finir un livre que j'avais consacré au général de Gaulle, pour tout vous dire, et dont j'avais publié le premier tome en 2002. Il faut que je publie le second tome, car je crois que nous sommes en 2005 ou 2006 ou 2010 ou 2015 ou 2020, je ne sais pas très bien compter le défilé des années. Il est temps, en tous les cas, que je finisse mon second tome à Paris, je ne peux pas travailler. Donc je m'en vais d'ici une heure, mais pour finir en beauté, j'ai demandé à Vladimir Fedorovski de nous
parler. Tant d'années d'amitié, mon cher.
Des siècles, presque.
Des siècles. on se connaît. Je n'ose plus dire les
nous
choses comme
fait,
ça. Et vous savez, entre-temps, j'ai quand même, on s'est connus il y a beaucoup d'années, tous les deux, tous les trois, pour être précis. Et je dois vous dire que quand même, j'ai fait beaucoup, beaucoup de livres entre-temps. Ah. Et le livre que je sors maintenant,
la semaine prochaine,
la semaine prochaine.
Nous avons
une primeur. Une primeur, c'est un livre qui m'est cher pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, vous savez...
Alors,
c'est...
faites tes présentations, Vladimir. Faites seulement.
Ça, c'est pour vous dire, vous comprenez, j'ai fait... Je pense que chaque écrivain a ses hantises, les sujets. Et les sujets qui traversent sa création tout le temps. Finalement, le sujet de Tolstoï, de Turgenev, oui. De Dostoïevski, ça traverse. Et dans mon cas, j'adore raconter la face cachée de l'histoire. J'aime les personnages...
Dostoïevski, c'est le mal. François Mauriac, c'est la rédemption.
Évidemment.
Vous,
évidemment.
C'est la Russie.
Non, la Russie, la face cachée de l'histoire, qu'est-ce qui est derrière. C'est-à-dire, j'aime raconter dans la réalité les coulisses plutôt que la scène. Et c'était historiquement, je ne sais pas, on m'avait reçu pour les égéries autrefois, je me souviens.
Oui.
Ou bien, en tout cas, je parle à Anne. Et il y a beaucoup d'années, il faut dire, c'était la même chose. Parce que j'ai raconté, il y avait les gens qui ont été au-devant de la scène, il y a les aspirateurs, les gens qui ont été... Peut-être, parfois, c'est très important. Dans l'histoire de la Russie, il y avait, cette fois-ci, c'est un personnage, peut-être un des plus importants du XXe siècle.
Alors, je vous interromps, Vladimir, pour... poser le sujet,
oui.
Ne tardons pas.
Oui.
Ça m'a étonné que vous consacriez un personnage que trop peu de gens connaissent en France et dont vous venez de dire à juste titre qu'il est un des plus importants du XXe siècle, tout un livre. Et ce personnage, c'est un certain Yakovlev, que tout le monde ne connaît pas, et qui a joué un rôle à vous lire stupéfiant. C'est l'inventeur de la glasnost et de la perestroïka. C'est aussi un de ces anciens communistes, alors diable boiteux, parce qu'il s'est beaucoup et bien battu pendant la Grande Guerre patriotique, il en est revenu boitant.
Contre les nazis, oui.
Voilà. Il est né en 23 et il est mort en 2005. En 1923, il est mort en 2005. Alors non seulement il a joué un rôle énorme dans la formation intellectuelle de Gorbatchev, c'est lui qui, au fond, a donné l'architecture ou le mécano pour lancer...
C'est lui qui était metteur en scène.
Qui était metteur en scène de la perestroïka.
Gorbatchev était acteur sur la scène.
Alors, il ne l'a pas accompagné jusqu'au bout. Vous allez nous expliquer pourquoi Gorbatchev a un peu pris peur à un certain moment. Il a pris le relais en créant un parti qui s'appelle
le mouvement pour les réformes démocratiques,
dont vous étiez porte-parole. C'est-à-dire que c'est en plus un de vos amis. Et là, il a joué aussi un certain rôle. Alors, on verra, rôle, hélas, pas aussi important qu'il aurait dû.
Non, vous savez, ça c'est, vous savez, il a fait...
À cause d'Elstine.
Non, Elstine, je vais raconter, Elstine était, vous savez, Elstine, c'était aussi une façade. Il y avait les choses derrière. Lui, il a joué un rôle absolument déterminant. La liberté à l'Est, c'est lui. Glasnost, la liberté là-bas en Russie, qui est maintenant... c'est lui. Là, vous savez, le changement géopolitique majeur, tous les éléments qu'il a lancés qui auraient pu éviter la guerre d'aujourd'hui, c'était l'équilibre des intérêts, la maison commune
européenne.
De l'Europe, c'était ses idées, c'est-à-dire il a déterminé les choses. C'est un personnage carrément déterminant. Il faut rajouter qu'aujourd'hui, c'est le personnage le plus haï en Russie. Vous ne savez pas. Le plus haï.
Qui ?
Yakovlev. S'il est plus haï que Yeltsin, qui est considéré comme un ivrogne dans les réalités qui étaient dans le vague tout le temps et finalement qui étaient manipulées, etc.
Par les États-Unis.
Notamment, par les États-Unis, notamment, tout le monde le sait, etc. Il y a Gorbatchev. Gorbatchev, il était une façade, c'était son instrument. Je me souviens, c'était un peu... j'ai bien connu Dali et Galla. Et Galla, il était en quelque sorte metteur en scène de Dali. Vous comprenez, je compare involontairement ces mésentises. Et ça, c'est un aspect important. Pourquoi ? Deuxième chose, vous avez lu ça, vous êtes une représentée pour moi, une rareté. Vous avez lu le livre jusqu'au bout et vous avez vu ces testaments vraiment spirituels qui sont très importants, à la fois sur les crimes de régime autrefois, mais aussi sur le fait qu'il a prédit texto
la guerre.
Ce qui s'est passé, la guerre. Alors, il nous rattrape.
C'est là où il faut
les
poser...
raisons que nous avons connues. Vous savez, si je vous cite ce qu'il m'a conversation la dernière, il a dit les morveux qui arrivent, qui n'ont pas peur de la guerre, les approximations de l'analyse, les gens prennent ces désirs pour la réalité. Ils vont mélanger la propagande et la politique réelle. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un d'à côté ?
Vladimir, je vous arrête.
Il a dit les contes Andersen, le roi est nu. Vous comprenez ? Ça ne vous rappelle pas aujourd'hui.
Mon cher ami, je vous arrête tout de suite. Vous noyez le poisson.
Oui.
Parce que parmi les ultima verba, il y a celle, en effet, de Yakovlev qui vous dit... la guerre est presque certaine, il vous dit ça avant de mourir en 2005.
Absolument.
Et c'est ce qui arrive 20 ans plus tard. Mais il y a un autre ultima verba, c'est celui de Mitterrand qui vous dit, il y a quelques mois de mourir, en 95, 10 ans plus tôt,
absolument.
Soit c'est l'équilibre en Europe, soit c'est la guerre.
Et ça, pardon, c'est étonnant.
Pardon de dire ça, parce que finalement, Mitterrand est encore plus clair que ce que vous nous dites. Car en réalité, le filigrane de toute la vie de Yakovlev, comme stalinien, et ça, c'est très intéressant
oui,
aussi.
Oui, oui, oui.
Comme inventeur de la perestroïka, comme réformateur des années 90, et ensuite historien, car à la fin de sa vie, il passe 10 ans dans une fonction assez honorable qui consiste à regarder le passé communiste, mais
surtout,
en fonction officielle en plus.
Et surtout, il a déclassifié plein d'archives,
voilà.
Qui d'ailleurs maintenant sont reclassifiées.
sur les crimes du communisme, donc un aperçu magnifique. Mais, alors, après, vous me dites ce que vous voulez, Vladimir, mais il y a quand même une idée majeure qui parcourt tout ce livre, et toute la vie de Yakovlev, c'est que l'Occident, j'utilise ce mot, en fait c'est les États-Unis et ceux qui les suivent, en Europe, ont passé leur temps, et les anglo-saxons spécialement, avec le grand ennemi de la Russie, qui est l'Angleterre d'abord, avant d'être la Russie, à marginaliser délibérément, et cela dès le 19e siècle, même avant le communisme.
Évidemment, ce qu'on a répété, vous avez lu ça, ce qu'il dit,
ça
il a les crises, la guerre de Crimée, l'intervention pendant la guerre civile.
La guerre de Crimée en 1856. Ça, ce sont des preuves irréfutables, continues, répétitives, dans l'histoire même de 2 siècles, on inclut.
Des permanences.
Les anglo-saxons veulent marginaliser la Russie. Et il y a un grand anglo-saxon qui est Churchill, il lâche même le mot, je ne sais pas si c'est chez vous que je l'ai lu ou ailleurs, la Russie est un rebut mystérieux ou un rebut plein de mystères.
Exactement.
C'est cet antagonisme, mais ça dépasse l'idéologie puisque c'est même antérieur à la révolution bolchevique.
Il y a une explication à ça ?
Eh bien oui, il y a une explication dont j'aimerais parler avec vous deux parce que c'est un des grands mystères et c'est ce qui fait qu'on a loupé la libération, l'effondrement du monde soviétique. On s'est aperçu, il y a une phrase de Yakovlev qui est terrible, terrible. Les anglo-saxons ne voulaient pas se débarrasser du communisme, ils voulaient se débarrasser de la Russie. Et au
ça,
lieu
c'est...
de coopérer avec la Russie, comme l'a souhaité Mitterrand, comme l'a souhaité Gorbatchev,
comme l'a souhaité Chirac, s'il vous plaît.
Chirac aussi, les gaullistes,
les gaullistes,
le général de Gaulle.
Bien sûr, bien sûr.
La France, en réalité.
En France,
une coopération dans le cadre de ce que Gorbatchev a appelé une maison commune, c'est-à-dire une société européenne multipolaire, en incluant, et je me permets même de citer Philippe Séguin, puisqu'il est l'auteur, et je m'en suis mêlé, d'un discours prononcé le 1er décembre 1993.
Je me souviens de ça.
Magnifique, où il, propose la création d'un Conseil de sécurité européen en incluant Moscou. Alors, il y avait aussi, bien entendu, l'Allemagne. Il y en avait cinq. L'Allemagne, l'Italie, on en avait discuté sur l'Espagne et la Pologne. Mais en tout cas, il y avait aussi la Russie et la Grande-Bretagne. Bon, c'était un rêve, mais c'était l'idée d'une maison commune européenne qui aurait inclus la Russie débarrassée du communisme dans un ordre européen.
On aurait pu éviter ça.
Magnifique.
Mais c'est pour ça.
Mais les anglo-saxons ont tout détruit. Et on montre que c'est une obsession depuis le XVIIIe siècle.
Vous avez pointé vraiment.
Et peut-être même depuis le traité de Vienne.
Exactement.
L'opposition
entre. Mais ça, c'était quand on a fait
entre Londres et Alexandre
évidemment,
Ier était permanente.
Ah, évidemment, voilà. Évidemment. Ça, c'est une chose. Vous êtes très pertinent, cher ami.
Oui, mais je dois on a peu de temps. Allons,
on a peu de temps. Je tiens à vous dire, il y a trois épisodes que je voudrais évoquer. Et pourquoi je publie ça aujourd'hui? Parce que j'étais présent sur deux. Vous savez, l'Occident était profondément divisé.
Divisé. Existe, oui.
À l'époque. Il y avait deux tendances. Et c'était les tendances, vous dites, vous savez, pas les néoconservateurs, mais les nouveaux conservateurs. Il y avait, en fait, dans la réalité, c'était deux images
confusion.
Différentes. Il y a les gens qui prenaient. On vous représentez, vous êtes les héritiers de la France éternelle, si on me permettait.
De la politique des rois, qui est
de la France d'équilibre. Éternelle, moi, c'est, il faut comprendre les choses telles qu'elles
la
sont.
Politique
et puis, il
d'équilibre.
Y a des néoconservateurs qui sont, paradoxalement, les gens ne savent pas, ce sont, vous savez, c'est les anciens, moi je les ai bien connus, c'est les anciens trotskistes. Qui sont, vous ne connaissez pas ça, mais c'est...
Ils sont bien déguisés
c'est,
avec ce mot.
C'est un compte déguisé de ça.
Non, mais et Laurent Rozon a fait un très bon livre pour montrer que ce sont les trotskistes qui, en partie, avaient participé à la révolution russe et même l'avaient suscité avec des aides déjà anglo-saxonnes,
évidemment.
Qui sont très souvent des juifs, et qui ont ensuite essaimé vers les États-Unis et qui ont créé le mouvement.
Ça,
c'est un livre de Laurent Rozon qui a six mois et qui est très pertinent.
Je dois vous dire qu'il y a d'autres. Trois épisodes que je voudrais évoquer, autrement on ne va pas comprendre.
Oui.
Tout d'abord, moi j'étais présent, il y avait quelqu'un qui était vraiment... Parce que les néoconservateurs, vous savez, d'aujourd'hui, sont intellectuellement très faibles. Yakovlev, il a prédit, c'est quand il a dit que c'est les morveux qui arrivent, qui ne connaissent pas la guerre et qui sont dans les écrans. Son mot, quel terrible mot qu'il a utilisé, morveux qui arrivent. Et... Je dois vous dire, mais il y avait quelqu'un qu'on a connu, il vient voir, où il y a samovar, il y a les petits gâteaux à la russe que je goûte de temps à l'autre chez vous, mon cher. Et je dois vous dire que, et puis c'est Bzyzinski, c'est un Polonais qui vient, qui est en tête pensante très structurée. Et il nous dit, parce que vous savez, il y a un petit clin d'œil, j'ai pris Yakovlev non seulement par hasard, c'est le plus pro-occidental, le plus anticommuniste, un des plus grands anticommunistes que la Terre a connu. Il était communiste et après il est devenu le plus grand. Et lui, il vient voir, il ne se gêne pas avec nous. Moi, j'étais présent, etc. Nous sommes trois. Le thé, un tout petit peu de vodka. Il a dit jamais, textons, je le publie, jamais nous n'allons pas permettre la renaissance de l'influence. Il n'a pas dit communiste, russe. Il a dit russe.
Russe.
En Eurasie, vous comprenez. Jamais.
C'est-à-dire.
Et
la crainte.
Il a dit texto, je le publie. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est une tendance qu'il symbolise. Et après, il y avait, encore une fois, comme d'habitude, comme chez moi, il y avait les gens qui ont été les metteurs en scène. C'était Bzyzinski, mais il y a.
Il n'était pas d'origine polonaise.
Il était d'origine polonaise.
Bzyzinski, oui.
Bien sûr, mais ça n'a rien à voir. J'ai des grands amis polonais, des grands de résistance.
Il y a un vieux contentieux.
Il y a quand même un vieux contentieux. Il a raison. Oui.
Vous savez, détrompez-vous. Maintenant, excusez-moi, Anne, oui. Je tiens à vous dire. Les Polonais sont, on parle toujours les Polonais anti-russes, etc. Vous savez, les grands Polonais, les gens historiques, oui. Qu'est-ce qui reste de Solidarność, ils sont terriblement inquiets. Oui. Parce que guerre qui nous arrive, nous sommes à deux pas de la guerre mondiale, ça va engloutir en premier lieu la Pologne, évidemment l'Europe, etc. Mais je tiens à vous dire, après, il y avait... les sous-fifres, Clinton, l'amateur des amours particuliers, tout ça, c'était les façades. Pour vous dire, c'était, il y avait quand même les metteurs en scène. Et là, c'était un grand clash. Je me souviens, il y a un grand ambassadeur, le plus grand économiste aussi, ambassadeur américain. Il s'appelait George Kennan, vous vous souvenez, le télégramme long,
l'endiguement,
l'inventeur de l'endiguement théoricien. Il m'a dit, c'est le fait qu'on n'a pas associé à l'époque la Russie avec l'Occident, c'est la plus grande erreur de l'Occident depuis Jésus-Christ.
Kissinger l'a dit aussi.
Évidemment, Kissinger, bien sûr que j'ai bien connu. J'aurais pu vous citer, il y a Baker vient nous voir, je raconte ça. Dans le livre, il dit, vous savez, nous n'allons pas avancer d'un pouce.
Charles Baker, qui a été
secrétaire d'État américain.
Aux affaires
secrétaire d'État américain, il a dit, nous n'allons pas bouger d'un pouce parce qu'on voudrait construire le nouveau monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je tiens à vous dire, vous savez, quand même, les Russes, y compris Yakovlev, ils sont allés très loin. Ils ont fait des gestes extraordinaires. Je me souviens, vous savez, vous avez parlé de Mitterrand. Mitterrand, à l'époque, il m'a demandé de transmettre un message ultra confidentiel à Gorbatchev. C'était le message, même pour aujourd'hui, c'est étonnant. Il a dit, vous êtes en train de prendre la décision fatidique pour l'Europe. Vous êtes en train d'accepter la réunification d'Allemagne. Ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Je transmets ça, et c'est un message qui a été discuté. Je raconte, Yakovlev était présent. Il y avait un autre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Shevardnadze, on peut oublier, géorgien. Il y avait KGB, l'armée de l'autre
côté. Mais qui faisait partie de votre mouvement de
réforme. Évidemment, mon ami, etc. Tout ça, mais on a quand même voulu créer un monde sans guerre. On a voulu... moi, j'étais très profondément francophile. Dans la réalité, je suis, vous savez, dans l'héritier, comme Yakovlev, de la tradition de Pierre le Grand, qui pensait que la Russie, Tolstoï, Dostoïevski, Tchaïkovski, ça fait partie de l'Europe. Je m'excuse, votre décor dans votre appartement sublime, ça fait partie, quand même, c'est un décor russe, mais ça fait partie de l'Europe.
Vous avez bien regardé mon salon, mon cher.
Ça m'a marqué.
J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons, alors j'ouvre une parenthèse, nous avons, Vladimir et moi, eu deux conversations formidables pour TV Liberté, chez moi, en effet, comme le sont toutes nos conversations, et j'invite nos auditeurs à se reporter.
Surtout le portrait de Poutine, on a fait
des émissions. D'abord, le portrait de Vladimir Fedorovski, en première émission, qui dure une petite heure, et une seconde heure sur laquelle, au cours de laquelle nous sommes concentrés sur la personnalité de Poutine. Donc
vous savez, on a fait dans la réalité de Vladimir. Mais pour revenir, je tiens à vous dire, je me souviens, ils ont autour de table 5 heures de discussion. Ils discutent tout le temps. Et après, Gorbatchev, qui devait arriver à temps, parce que Raïssa, sa femme, elle était castratrice, et là, s'il arrive vraiment en retard, il lui fait un scandale. Il doit arriver au dîner. Il a dit, je vais prendre la décision là-bas. Et c'est Yakovlev, ça c'est le moment historique. C'est vraiment comme aujourd'hui, je peux vous raconter les moments historiques qui se passent aujourd'hui. Quand il prend le téléphone avec les sigles du Kremlin, parce que je l'appelle le magicien du Kremlin, mon diable.
Et le diable dit, boiteux, c'est aussi un magicien. Ça nous rappelle un autre diable boiteux.
Et il dit, vous savez, on est en train de discuter quelque chose qui est... Finalement, on peut accepter la proposition de Mitterrand de ne pas faire... Nous avons 500 000 hommes en Allemagne, enlevés, c'est-à-dire c'était facile. Les Allemands de l'Est ne nous demandaient que ça. Mais dans ce cas-là, c'est la fin de réforme chez nous. Peut-être nous serons évincés de pouvoir et sans doute tués. Et là, c'est l'or, vous savez, c'est un peu de Shakespeare quand même. Elle dit, on verra. Gorbatchev vient et le brief au moment de cette délicieuse vatrouchka, ça s'appelle un dessert à la russe. Et il l'a briefé et le lendemain, il a dit pas d'intervention en mois de juin. Vous comprenez, ça c'est les choses.
Mais je raconte. Ça c'est juin 89.
89, ça c'est.
C'est le moment, pardon, attendez, je resitue les choses, Vladimir, pour que nos auditeurs comprennent bien. Le point qui a tout déclenché, c'était le refus de Gorbatchev, que je regrette beaucoup pour ma part, de s'opposer au franchissement du mur à Berlin.
Bien sûr.
Et de laisser Grenz, celui qui avait remplacé au pied levé Honecker, que le même Gorbatchev avait écarté, hélas, parce que Necker et Eon n'auraient certainement pas pris la décision de ne pas sanctionner les Allemands de l'Est qui partaient à l'Ouest.
Mais la décision était prise bien avant.
Mais pourquoi ? Parce qu'en réalité, Mitterrand, comme la Russie l'aurait dû, était opposé à cette réunification, au moins dans ces conditions-là, sans aucune condition. La réunification allemande n'était pas dans les vues françaises ni dans les vues russes.
Absolument.
La preuve, Mitterrand, aussitôt ce début de réunification amorcé, se précipite, c'était une drôle de décision quand même, se précipite en RDA pour essayer de le demander, de tenir bon. Là, il y avait encore une fois une conjonction entre Paris et Moscou, mais c'est Moscou qui a lâché.
C'est Gorbatchev qui a lâché, mais c'est Yakovlev qui a pris la décision. Pourquoi ? Je vais vous dire, il faut comprendre.
Le délitement de l'Empire soviétique.
C'est pour ça que Yakovlev, le putsch de Moscou que je raconte et toutes ces histoires d'aujourd'hui,
c'est passionnant,
ça remonte à ça. Ça remonte à ça, c'est pas... Mais les choses comme ça.
C'est deux ans plus tard, en 91.
C'était une décision. Je suis, pour vous dire...
Parce que vous croyez que tout ça est connu. Il faut dire que deux ans après, des anciens autour du chef du KGB organisent une contre-offensive et tentent de restaurer l'ordre soviétique. Et ça tourne très mal. Et c'est à ce moment-là qu'émerge Helsinki.
Il avait toutes les possibilités, mais on a eu un coup de bol avec ça, si je vous raconte.
C'était en août 91.
J'ai pas le temps de raconter.
Mais le livre est très précis et palpitant sur le sujet.
La face cachée de putsch et de tout ça.
Surtout que vous voyez les voitures entrer, vous êtes...
Oh mon cher, j'étais avec Helsinki. Si je vous raconte une autre phrase fatidique.
Vous êtes un témoin oculaire.
Évidemment, j'étais porte-parole des anti-putschistes. Mais vous savez, le jour de la fin du communisme, une autre phrase qui termine aujourd'hui. Il était un peu givré, même bien avancé, Helsinki, et j'ai dit, président, nous avons gagné par hasard, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il me répond, je vais les nommer milliardaires. Milliardaires, la chose, l'oligarchie d'aujourd'hui,
c'est beau,
avec la complicité de la banque. Mais vous savez, ça a joué un rôle. Pour vous, parce que comme ça, je suis devenu écrivain, parce que j'ai tout compris, j'ai voulu changer le monde, et ils sont en train de voler ça, comme de dingue, 120 milliards de dollars passés illégalement de la Russie avec la complicité des banques occidentales, tout ça quand...
Dans les années 90, ça a été un pillage de la Russie, avec la bénédiction de Helsinki. Et ce pillage s'est organisé en grande partie en faveur des Occidentaux. Il y avait un peu d'Italiens, il y avait pas mal d'Allemands, il y avait beaucoup d'Anglais et d'Américains.
Hein, évidemment, des États-Unis, mais ils ont été installés au Kremlin.
Les infrastructures.
Je suis anéanti par ça. Pourquoi ? Parce que vous comprenez, je porte involontairement, la nuit, quand je fais un mea culpa, je porte une grande responsabilité. Vous portez la responsabilité, vous deux. Je vais vous dire pourquoi.
Ah.
Parce que, vous comprenez, moi, je vous aime, je suis francophile absolu. J'aime l'histoire, j'aime la France longue.
Tout le monde vous reconnaît comme tel, Vladimir.
C'est pour ça que, vous savez, mon franc parlait aujourd'hui, les gens me reprochent parfois, parce que je dis les choses, même dans les mainstream, je viens, mais poliment, parfois un tout petit peu, en étant un peu tordu, mais quand même poliment, je dis les choses telles qu'elles sont. Pourquoi ? Parce que je suis attaché à la France. Je suis attaché quand la France, vous savez, quand ça baisse sur le plan international, ça me perturbe. Mais bref, pour revenir, pourquoi vous êtes responsable ? Parce qu'à l'époque, quand j'étais aux affaires, j'étais diplomate influent et j'ai beaucoup, j'ai présenté tout le monde. On a eu beaucoup de conversations, si je publie mes conversations avec Chirac, vous serez étonné, parce que Chirac, il était dans la filière... Très gaulliste. Mmh. Il disait l'Europe peut être sauvée par trois piliers.
Oui.
L'Allemagne, la technologie allemande, la France éternelle avec sa civilisation, etc.
Et la
Russie avec l'énergie et Tolstoï, Dostoïevski et son poète préféré, Lermontov. Il a traduit Pushkin, s'il vous plaît, connaissez le russe.
Il connaissait très bien la culture russe, il parlait russe. Et il est allé en Russie tout de suite après le putsch en 91.
Mon cher, vous prêcher quelqu'un qui est venu chez moi.
Vous l'avez poussé.
Non, il m'a téléphoné sur le téléphone d'Ulysse Gosset, énorme truc. Mitterrand fait une gaffe, il pense que l'affaire est pliée, il soutient le putsch. Dans la réalité, il a accepté le putsch, Mitterrand. Et Chirac,
alors,
il a
Mitterrand, oui. Mitterrand avait accepté
et Chirac,
Putsch, oui.
Il a compris Chirac, que c'est une bête politique. Oui. Il a compris que c'est une gaffe historique.
Raté, oui.
Il m'a téléphoné, il a dit, est-ce que tu peux m'arranger la rencontre avec Eltsine? Je l'arrange, etc. Il vient chez moi, mais ça, c'est, encore une fois, ça, c'est les heures fatidiques inoubliables qui prouvent que c'était une grande époque que j'ai connue. Vous savez, il nous soutient à fond, Chirac.
Les réformateurs.
Les réformateurs. Il soutient au nom de la Russie.
Donc il s'oppose au Putsch qui avait accepté Mitterrand.
Mais quand il vient chez moi, j'ai pensé, par miracle, on a gagné. J'ai pensé qu'on va parler, on a eu beaucoup de conversations géopolitiques, etc. Il a commencé à réciter les poésies. Vous imaginez, on a eu la vodka aidant, et vous savez ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé de l'amener au tombeau de Pasternak, l'auteur de Dr Zhivago. Mais Chirac, c'était les poésies. C'était... Vous savez, c'est la France, quand je parle de ces personnages, les personnages de différents bords, vous comprenez, Chirac, Mitterrand, Séguin, que vous citez avec beaucoup de...
Fillon, pour son malheur. François Fillon, pour son malheur.
Il existe.
Que c'était et ça, le problème de Fillon,
j'ai présenté ça, Yakovlev, j'ai présenté ça à Gorbatchev. Ils ont pensé que c'est ça, l'Occident. Mais ce n'était pas ça, l'Occident. L'Occident était néoconservateur, était Brzezinski et la compagnie avec Clinton et tout le reste. Vous comprenez, tout ça, c'était un désastre qui, finalement, nous ramène aujourd'hui. Pourquoi, quand je cite « prendre ses désirs pour la réalité »,« approximation de l'analyse »,« mélanger la politique réelle et la propagande », vous comprenez, il fallait le dire à l'époque. Vous comprenez, il était prémonitoire par rapport à ce qu'on vit quotidiennement aujourd'hui. Vous savez, et ça, c'est pour ça qu'il y a une petite chose, quand même, je ne suis pas enfant de cœur pour vous dire la vérité, j'étais un tout petit peu blessé par... il y a quelqu'un qui a publié le livre qui s'appelait « Le mage de Kremlin », vous vous souvenez ? C'est une invention. C'est quelqu'un, c'est sur un sous-fifre de Poutine.
Et surtout un film.
Et un film, tout le monde a vu le film, etc. Mais je dois vous dire que ça ne correspond pas, c'est une invention, c'est une fiction. Tandis que, historiquement, j'appelle sous-titre de ce livre « Le diable boiteux », c'est le magicien de Moscou. Et il y était magicien parce qu'il a tué le communiste, parce qu'il a fait la liberté, etc. Mais il y a une autre chose. Dans la Russie, il y avait un phénomène de répétitivité. C'est un étrange phénomène parce que les gens comme ça, derrière la scène qui en sont le plus important, ils ont joué un rôle historique. Par exemple, je suis en train de terminer un livre pour l'année prochaine. Si vous me recevez, je serai ravi de quelqu'un qui est très important pour la Russie aujourd'hui. Il pense que c'est l'histoire, c'est Catherine II. Parce que hier, Poutine, il vient à Saint-Pétersbourg, il dépose une gerbe.
Évidemment.
Au tombeau de Catherine II. Ils pensent que c'est l'histoire, mais les gens sont quand même... Vous savez, les journalistes d'aujourd'hui, ils sont nuls. Vous savez ce qui est écrit sur le ruban ?
Non.
Merci Catherine pour Odessa.
Ah.
Vous comprenez ?
Mais Vladimir.
Ramène ça. Mais pourquoi je vous parle de Catherine ? Il y a un personnage qui est absolument époustouflant, un grand poète, un grand chef de guerre, un grand diplomate, un grand écrivain, tout ça... On peut dénigrer par l'histoire, il s'appelait Potemkin, c'est l'amour de la vie.
Bon,
de Catherine.
Vladimir,
de Catherine.
Excusez-moi.
L'homme de l'ombre, bref.
Vous parlez de tout à la fois, nos auditeurs ne vont rien comprendre.
Donc, vous pensez ?
Non, je suis un peu
il
plus
aime
sûr.
Bien me suivre.
Moi, je veux bien vous suivre, mais je voudrais que tout le monde vous suive. Alors, j'en suis resté à ce livre, je répète, pour nos auditeurs qui arrivent à l'instant. Je vais... résumer le livre, la vie de cet inventeur de la perestroïka, Yakovlev, qui fut un de vos amis et qui fut aussi un historien de la Russie soviétique. Voilà, c'est le thème de ce livre, qui a l'air de rien et qui pose d'énormes questions. Pour moi, la question immense, c'est celle que j'évoquais, qui avait déjà été pointée par rien moins qu'Alexis de Tocqueville en 1835, qui disait déjà... Au XXe siècle, deux mastodontes s'affronteront, les États-Unis d'Amérique, dont il était un bon connaisseur, et la Russie. Bien. Donc il y a cet antagonisme. Et je voudrais qu'au moins, puisque ça, à mon avis c'est le cœur de votre livre, je prends la page 184. vous parlez de Gorbatchev au fond comme un homme d'une certaine naïveté. Et Raïssa aussi. Bon. Et Yakovlev n'a pas mesuré le degré de naïveté de celui qu'il avait convaincu de lancer la perestroïka. On y reviendra peut-être, ou alors il faut se reporter sur le livre, au cours d'une conversation assez magique qui a eu lieu au Canada, lorsque Yakovlev était ambassadeur de Russie au Canada, et qui prend à part Gorbatchev, qui est sur le point de devenir le président du Parti communiste, donc le chef, ipso facto, le chef de l'État russe, et qui lui dit « Rien ne marche en Russie, regardons les choses en face, si vous prenez les rênes du pouvoir, ayez le courage de tout changer. Il n'y a pas ceci et cela, il n'y a pas des réformes, il faut tout changer. Le système est à bout de souffle. » Donc voilà la grandeur de ce Yakovlev.
Vous savez, il y avait une heure de conversation qui a changé tout dans le monde. Oui. C'était étonnant, il m'a raconté
grâce au retard d'un avion, d'ailleurs.
Je me demande s'il n'a pas
Yakovlev n'a pas organisé le retard de l'avion qu'ils attendaient tous les deux, Yakovlev ambassadeur et Gorbatchev, un ministre canadien, pour pouvoir le prendre au bout du tarmac, d'ailleurs. C'est-à-dire sans que personne n'entende. Parce qu'ils étaient eux-mêmes fliqués par les policiers de la garde. Et ça se passe au bout d'une piste, c'est très amusant. Bon, c'est vraiment, vous avez le don de la mise en scène, et ce livre est passionnant parce qu'il y a différentes scènes comme ça qui sont dramatiques. Je reviens à Gorbatchev, qui s'imaginait qu'en suivant Yakovlev et en ouvrant petit à petit, ça s'est d'abord appelé la glasnost, c'est-à-dire la transparence, en ouvrant les fenêtres, il allait recevoir... C'est là le drame, Vladimir.
Évidemment.
Il allait recevoir un soutien des Anglo-Saxons et de l'Occident. Alors oui, pour la France, mais pas pour les Anglo-Saxons. Et vous écrivez...
Oui, pas en partie des Anglo-Saxons. Il y avait une bataille,
Gorbatchev a fait une très mauvaise analyse. Il comptait sur une aide massive de l'Occident, ce fut l'inverse. Reagan se lança dans la guerre des étoiles. Pour y faire face, l'armée rouge réclamait des sommes ahurissantes au moment même où les deux principales sources du financement du budget soviétique s'effondraient, à savoir les prélèvements sur les ventes d'alcool et les revenus tirés du pétrole dont l'Amérique et l'Arabie saoudite faisaient baisser drastiquement les prix. C'est-à-dire que tout de suite, il y a une attitude, non pas de coopération, dès le début de la glasnost, mais d'hostilité. Et alors là, je ne peux pas m'empêcher de revenir à la très bonne question qu'Anne a posée tout à l'heure. Et nous avons passé trop vite, je vous la pose. D'où vient cette hostilité ancestrale dont je répète, on avait déjà vu une illustration déjà au XIXe siècle, lors du traité, le congrès de Vienne, l'opposition permanente entre Alexandre et je crois que c'était Castelrag, je crois, le ministre des Affaires étrangères anglais.
Absolument.
Pourquoi, dit Anne, qui a glissé cette question tout à l'heure, pourquoi ces deux peuples, mettons anglo-saxons et russes, s'opposent-ils si violemment depuis plus de deux siècles? Et on en voit encore une illustration sous nos yeux.
Vous savez, hélas, c'est une opposition entre les deux tsars aussi en Russie. Il y avait un tsar qui disait, pour répondre à votre question, Ivan le Terrible, le premier tsar russe pittoresque, absolument, d'ailleurs beaucoup dénigré à l'Occident, il disait, il n'y a rien à faire avec l'Occident, avec l'Europe. Nous sommes trop grands pour eux. Nous représentons un tel continent.
Là, vous dites le contraire, c'est la Russie qui ne veut pas de l'Occident.
Oui. Lui dit que l'Occident sera toujours hostile parce qu'il a peur.
Ouais.
Il a peur. La Russie est trop grande. C'est-à-dire, dans la réalité, il disait que la première chose, c'était l'histoire. L'histoire et la géographie. Et il y avait Pierre le Grand qui pensait que la Russie est profondément européenne, qu'on peut trouver les équilibres. On vient finalement à la phrase de Yakovlev, on peut trouver les équilibres en Europe. Et vous savez, il posait les questions beaucoup plus graves que Yakovlev il posait tout le temps. Il disait que finalement, l'alliance avec l'Europe est nécessaire pour équilibrer aussi ce qui se passe maintenant, l'alliance entre la Russie et la Chine, pour équilibrer l'influence chinoise de l'autre côté, parce que l'aigle, il me disait toujours, c'est bicéphale. Une tête qui regarde l'Occident et une tête qui regarde... Et ça, c'est l'héritage qui est le mien, qui était l'héritage de Yakovlev aussi, l'héritage de Pierre le Grand, vous comprenez? Ça, c'est une chose qui existe. Et deuxième chose, et ça c'est une erreur, au fait, qui, c'est pour ça que je publie son testament géopolitique,
oui, en annexe,
dans la première annexe. Vous savez, parce qu'il récapitule les étapes de l'hostilité permanente occidentale, étape par étape, qui considérait que les Russes, au lieu de chercher, disons, l'équilibre des intérêts, mais pour ça, il faut accepter que la Russie a le droit à la sécurité. Et ça, c'est, il y avait, si vous, vous, je vous cite, j'ai beaucoup lu la presse, notamment en France, pendant la guerre de la Crimée, il niait la notion de la sécurité à la Russie. Tout le monde, il disait, peuvent avoir la sécurité. C'est une constante. Mais regardez la presse, j'ai regardé aujourd'hui la presse américaine, ils disent que l'Israël est américain, s'il vous plaît. C'est vrai, anti-Trump. D'ailleurs, il faut qu'on cesse de... il dénigre tout le temps Trump qui est terminé. Trump, il a encore 3 ans quand même. Les choses, parce que les Ukrainiens, les Européens aujourd'hui, les politiquement corrects, ils disent Trump est terminé, etc. Il n'est pas encore terminé. Mais bref, cette presse qui dénigre Trump, dans la foulée, il dit que finalement... L'Israël, les États-Unis, ils ont le droit à la sécurité, éventuellement, ils ont cité, il y a une phrase exquise, il disait éventuellement l'Europe, mais pas la Russie.
Oui, oui.
Vous comprenez, ça c'est...
Alors,
il y a un problème de cartésianisme.
Nous avons encore beaucoup de choses. Je veux écouter les scandales dont vient nous parler notre cher invité, qui est au bout de la table, puis qui n'en perd pas une, Anne Brassier. Et je voudrais répondre à la question qu'elle posait. Réponse très différente de celle que vous venez de faire, oui. Vladimir. Et pour l'instant, nous avons un bobino.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Ah oui.
Alors, on nous demande, il y a aussi une question d'un auditeur, on nous demande si Yakovlev, le nôtre, Alexandre Yakovlev, qui est né en 1923 et en 2005, dont vous retracez la vie, mais c'est vertigineux, parce qu'à travers cette vie, je répète, il faut lire ce livre pour ça. On comprend toute la Russie depuis sa naissance, et même depuis la Révolution russe, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, le Yakovlev, qui souvent commente l'actualité sur une chaîne LCI, une chaîne de télévision. Non, il n'y a aucun lien de parenté.
Il n'y a aucun lien, c'est presque comme Durand.
Il est en général assez sceptique et même assez critique sur la Russie. Par contre, il est plein de bon sens sur le conflit de l'Iran, Iran et Israël. Il est très étonnant, ce Yakovlev, mais rien à voir avec notre Yakovlev.
Qu'est-ce qu'on ne fait pas, vous comprenez?
Et je réponds à la question d'Anne.
Pour les médias.
Parce que j'aimerais savoir ce que Vladimir pense de la réponse d'Anne. Pourquoi ces deux cosmogonies anglaise et états-unienne, ou ces deux intérêts géopolitiques. Mais pour moi, ça tient davantage à la cosmogonie et presque à la religion et la conception de la vie entre les anglo-saxons et la Russie. Il y a quelque chose qui est frappant dans la manière de vivre des uns et des autres. Je connais la Russie, ma grand-mère était russe, je suis passionné par la Russie, surtout depuis que je connais Vladimir, mais j'ai vécu aussi aux États-Unis. Et je peux vous dire que si on regarde les choses en deçà ou au-delà des intérêts géostratégiques, qui sont en effet assez opposés sur plusieurs sujets, notamment l'exploitation de la Sibérie, l'Alaska, etc., il y a deux conceptions de concevoir le monde qui sont incompatibles. Les anglo-saxons sont des matérialistes pur sucre.
Évidemment.
Dieu est absent de ces sociétés. Et dans les entretiens que j'ai faits toujours pour TVL avec John Langland, j'ai été frappé par l'insistance que notre ami John Langland, que beaucoup de nos auditeurs doivent connaître, mais a déploré, il est catholique, bien qu'anglais, catholique et on peut dire de stricte observance, et il dit ce qui m'effraie dans la situation actuelle de la Grande-Bretagne, c'est qu'il n'y ait jamais question de théologie, de foi, d'Église et de Dieu. C'est pareil aux États-Unis.
C'est pas des mystiques.
Aux États-Unis, c'est autre chose.
C'est pas des mystiques.
Dieu, c'est l'Amérique pour les États-Unis. Mm-hmm. Ils croient célébrer Dieu, c'est pas du tout une transcendance. Ils se célèbrent eux-mêmes.
C'est eux.
Dieu est américain et l'Amérique est Dieu.
Oui, oui.
Et on le voit beaucoup avec l'actuel chef de la Maison Blanche qui vit à mon avis. Bon, passons. Cette absence de Dieu et cette absence de transcendance, c'est l'exact inverse de la conception russe de la vie.
Bien sûr.
Où tout est transcendance, où tout est vertical, où tout est sentiment, avec une once de fatalisme qui est le signe des sociétés très, comment peut-on dire, très métaphysiciennes, qui savent que l'homme peut peu de choses et que l'essentiel vient du ciel. Voilà, il y a une dose
de fatalisme. Je suis complètement d'accord.
Et ces deux cosmogonies sont les deux... Alors moi, ça m'intéresse beaucoup parce que la France se tient, au fond, un peu entre les deux, et je voudrais tellement qu'elle prenne un peu de l'une et un peu de l'autre en les mélangeant. Et ça...
D'où vient le rôle diplomatique française ?
Peut-être,
vous savez,
oui,
vous savez,
en effet. C'est le rôle que nous avons.
Je pense qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que quand même la France... avec son héritage millénaire, elle apporte énormément à l'Europe et elle apporte énormément en Russie. Vous savez, je pense que la diplomatie française a sous-estimé cet attachement des Russes à la France, à la culture.
Et oui.
À cet esprit, la France, ici, à ce côté spirituel français. Parce que ça, il ne faut pas oublier... Et dans la réalité, ce livre aussi, je parlais du diable boiteux, mais dans la réalité, le diable boiteux, il est lié avec ce que vous avez évoqué. Dans le livre, j'ai cité Dostoïevski, il y a une notion des vieux sages. Vieux sages, c'est une notion très particulière. C'est les gens de la spiritualité absolue qui nient hiérarchie. Yakovlev, il a nié hiérarchie. Il n'a pas cherché, il est tout le contraire des gens qui cherchent maintenant les médias, comme vous avez
cité.
C'est
l'homme libre.
L'ombril, tout ça.
L'homme libre.
L'homme libre. C'est pour, au fait, c'est pour ça que je publie. Et à la fin, il était complètement libre. Et ça m'a bluffé.
C'est très sévère.
Moi, je l'ai...
sur l'héritage soviétique.
Évidemment,
pourtant,
complètement. Et ça va rester.
Il trouve même des épisodes effrayants où Staline ordonne la mort de dizaines de milliers d'enfants.
Absolument.
C'est
Absolument. Mais il fallait oser de sortir ça.
Il faut que ce soit un Russe qui le dise.
Sortir ça. C'est pour ça qu'il est haï par les néo-communistes, etc. Tout ça, c'est les choses. Le vieux sage, il y avait dans les monastères de la Russie éternelle, ils vivaient, mais ils étaient les plus estimés.
Bien sûr.
Parce qu'ils ne cherchaient rien. Dostoïevski, il dit, il prenait notre volonté pour nous ramener vers la lumière, vers Dieu.
Bien sûr, mais il y a le personnage du Folland Christ qui parcourt...
Exactement. Ça remonte à ça.
Bien sûr.
Ça remonte à ça. Mais il fallait être tout ça pour lancer ce mouvement extraordinaire de la liberté et nous donner finalement la clé pour déchiffrer la crise d'aujourd'hui.
Alors, Alexandre, nous allons lire votre livre, Le Diable Boiteux. Nous allons écouter, il nous reste quelques minutes, Anne qui vient de nous parler de ces scandales. Voilà, pardon, il nous reste 5 ou 6 minutes, ma chère Anne.
Il n'y a pas aussi un autre problème, c'est que l'Amérique est née avec cette idée de la conquête de l'Ouest. Elle a fini sa conquête de l'Ouest. Maintenant, elle veut faire la conquête de l'Est. Alors que la Russie la Russie n'a jamais cherché à sortir de ses frontières.
Exactement. Il nous raconte des histoires. Exactement.
Elle a tout. Bon. Et c'est nous qui sommes allés. Napoléon qui est allé jusqu'à Moscou.
Mais en revanche, elle est tentée par l'histoire, par Napoléon, par Hitler. Par les problèmes de sécurité.
Il y a une pente impériale très nette dans l'Empire russe.
Vous voulez des scandales.
Où on en est de Notre-Dame?
Alors, Notre-Dame, c'est assez étonnant parce que ça commence à sortir. Il y a une petite religieuse d'Agrigente, c'est en Sicile, qui connaît bien les francs-maçons de Sicile, qui porte plainte parce qu'elle dit que... les francs-maçons de Sicile et Claire Tabouret sont liés. Claire Tabouret a appartenu...
C'est l'auteur des vitraux que Macron veut imposer à la place des vitraux de Viollet-le-Duc.
Absolument. Elle appartient à trois sectes maçonniques importantes. Et puis surtout, elle a acheté, elle s'est exilée aux États-Unis, et elle a acheté une propriété sur les terres de Charles Manson. Charles Manson, voilà. C'est quand même le dingo criminel qui a tué et fait tuer un certain nombre de gens, dont la femme de Polanski, enceinte de 8 mois, oui. Avec un personnage assez effrayant qui est Suzanne Austin. Et cette Suzanne Austin est représentée avec des lithographies, elle était représentée dans l'appartement d'Epstein, avenue Foch à Paris.
Oui, voilà, et c'est très lié à l'affaire Epstein.
Et très lié à l'affaire Epstein. Et puis il y a un autre politique qui est.
Et Claire Tabouret aussi est très lié à Epstein.
Absolument, mais il y a un autre homme politique qui a fait le lien, c'est Édouard Philippe du Havre.
Dont la sœur a acheté des lithographies de cette tabouret.
La sœur a exposé ses lithographies. La femme a donné Claire Tabouret pour des sujets d'examen à l'école Camondo des arts qu'elle dirigeait. Et notre Philippe est tout à fait un père qui était extrêmement engagé dans ces groupes maçonniques. Donc tout ça est...
Mais vous dites maçonnique, le mot va un peu vite, ça me paraît plus diabolique que maçonnique.
Oui, mais enfin, je suis très prudente.
Qui dépasse beaucoup l'affaire de la pédophilie.
Bien sûr.
Un des grands aspects sombres de l'affaire Epstein, c'est ce qui se passe dans le ranch du Nouveau-Mexique.
Oui.
C'est passé dans le ranch du Nouveau-Mexique.
Oui, oui.
Qui sont ce qu'on peut appeler des messes noires.
Absolument.
Celles qui sont d'ailleurs dénoncées.
Absolument.
Dans le film de Kubrick.
Absolument, mais
coupées.
C'est Suzanne Austin qui tue allègrement des enfants.
Des enfants.
Donc tout ça fait quand même beaucoup de bruit. Ce qu'il y a de curieux, c'est que la vidéo où cette religieuse s'exprime a disparu. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas retrouvée. Il y a ça, puis il y a un autre problème, c'est que cette Claire Tabouret n'a jamais fait de vitraux, et quand elle dessine les bras, ce sont des bras extrêmement longs, parce qu'elle ne tient pas compte de la coupure des séparations des vitraux.
Vitrail, oui.
Donc ça fait quelque chose de bizarre. Et puis, malheureusement, elle reconnaît dans les tableaux, les tableaux de Claire Tabouret, le personnage de Suzanne Austin, ce qui est quand même effrayant.
Alors,
voilà.
Ce qui est effrayant aussi, c'est ce que raconte notre ami Nicolas
Stocker. Oui.
Qui est un jour, qui rencontre un jour une de ses amies qui revient de Notre-Dame où elle allait un matin.
Oui.
Peu de gens y vont.
Oui.
Et elle a croisé Macron faisant un rond, Emmanuel Macron, oui, président, oui, de la République, faisant un cercle autour d'une figurine dont elle n'a pas déterminé la.
Oui, oui.
Mais ça avait vraiment l'impression, ça donnait l'impression
d'une consécration,
plein Notre-Dame,
absolument,
orchestrée par le président de la République.
Oui.
Et Nicolas Stocker n'est pas un affabulateur.
Non.
Et il assure que ce témoignage est digne de foi.
Absolument.
Il y a 1000 choses qu'on n'a pas comprises derrière cette affaire de Notre-Dame et des vitraux.
Et il y a un autre problème, c'est Édouard Philippe et Macron qui rigolent au pied de Notre-Dame en fleurs.
Oui.
Ça, on l'a vu.
En flamme.
En flamme.
Pas en fleurs. En flamme.
En flamme.
Et Édouard Philippe, très lié à cet auteur... elle fait à la fois de la musique, de la peinture, de la sculpture, cette Anne Tabouret, mais tout le Claire Tabouret, pardon. Anne, c'est vous, pardon. Claire Tabouret, mais tout le temps autour du thème du diable.
Oui, oui. Oui, oui.
C'est amusant de parler des maçons, mais je crois que vous êtes à côté de la plaque.
Tout ça n'est
La révérence, elle est faite au diable.
Oui, oui, absolument.
Et ce n'est pas sans intérêt ni sans lien avec l'affaire Epstein.
Non, mais enfin, de la maçonnerie.
Et un certain état des élites occidentales qui, à mon avis, délire complètement. Voilà,
absolument.
Pour dire le fin mot. J'aurais voulu ajouter un mot, mais ça n'est qu'un mot sur une récente... elle date du 26 mars, proposition de loi, déposée au Sénat, au terme de laquelle, sans jugement, tout individu qui serait, par exemple, sur son ordinateur, pris en train de stigmatiser une personne ou un groupe d'hommes et de femmes en raison de leur origine, se verrait immédiatement privé de tous leurs biens déposés en France. Sans jugement. c'est stupéfiant. C'est stupéfiant.
Donc oui. C'est sous prétexte d'entrisme islamique, pour lutter contre l'entrisme islamique, mais l'article 6 dit bien en effet que...
Mais je crois qu'il y a, une communauté qui est derrière tout ça,
non.
qui a essayé de faire passer quelque chose récemment, ça n'a pas marché, mais il y a une atteinte absolument caractérisée aux libertés publiques. Là-dessus, mes chers amis, je m'en vais, je quitte cette terrible fournaise qu'est Paris. Je vous souhaite un beau printemps et un bel été. Je vous dis à bientôt. Et en tous les cas, je ne vous laisse pas seul. La semaine prochaine, ce sera Gilles Brochard qui prendra le micro. Et lisez d'ici là Le Diable boiteux de Vladimir Fedorovski. Merci beaucoup.
Aux éditions Balin, avec ce titre, Le magicien de Moscou. Le Diable boiteux.
À bientôt, chers auditeurs.
Au revoir, chers
auditeurs. Et n'oubliez pas de vous abonner au Nouveau Conservateur en passant.
Au revoir, chers auditeurs.
À bientôt.
Moi, je dis une minute de pub. Allez sur annebrassier.fr parce que je sors un nouveau livre qui s'appelle « Lettres à mes petites filles ».
Voilà. Génial.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 6 mai 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.